Vous écoutez France Culture.
Ils sont aujourd'hui 730 000. 730 000 élèves de CM2 à participer à la grande évaluation annuelle de la dernière année d'école primaire. Évaluation mise en place depuis janvier 2009. Pour le ministre de l'Éducation, Luc Chatel, ces évaluations sont indispensables. D'une part, pour mesurer le niveau de chaque élève et remédier aux difficultés. D'autre part, au niveau national, pour améliorer les performances de notre système éducatif. Alors on va revenir sur le sens de ces objectifs dans notre débat ce soir, mais on va revenir sur le débat autour de l'existence, autour de ces évaluations. Déjà il y a 3 ans, quelques enseignants avaient vivement protesté et avaient désobéi, pour reprendre leur terme, et la fronde cette année semble avoir pris de l'ampleur. Des professeurs des écoles du mouvement Freiné en appellent au boycott. L'AFCPE, le syndicat majoritaire des parents d'élèves, demande aux enseignants de ne pas communiquer les résultats des élèves à leur directeur. Et les principaux syndicats de l'enseignement du premier degré, en tout 77% des professeurs des écoles, sont très critiques sur le principe de ces évaluations, le moment choisi, le mois de janvier, et le contenu même du test. Et puis hier, on apprenait que ce fameux test de CM2 était même disponible sur Internet. Ceci, bien sûr, en signe de protestation. Des parents d'élèves d'une école parisienne ont même décidé de le diffuser par mail. Des exemplaires corrigés ont été distribués. Bref, on en est arrivé à un point de tension inégalé sur le sujet. Bon, il faut dire que ces refus et ces doutes s'inscrivent dans une tradition française de méfiance vis-à-vis de l'évaluation. On peut rappeler un exemple. En 1988, quand Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation, décide de systématiser les évaluations là en CE2 et en 6e, les syndicats avaient obtenu que les résultats par établissement ne soient pas rendus publics, que leur utilisation reste à l'appréciation de l'enseignant et que leurs résultats aux enseignants ne soient assortis d'aucune sanction. On voit que le sujet concentre un certain nombre de craintes. Alors que se joue-t-il de si grave autour de la question de l'éducation ? De l'évaluation, à n'en pas douter, elle cristallise bien un malaise dans l'éducation. On va donc demander ce soir à des spécialistes, des professionnels de la question scolaire de nous expliquer pourquoi et puis de nous donner des pistes sur ce qui pourrait être à leurs yeux une évaluation juste, une évaluation efficace de l'école et des élèves en France.
Alors on en parle avec vous trois, Jean-Michel Blanquet, vous êtes le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale que vous représentez. Donc ce soir, Sébastien Cyr, vous êtes le secrétaire général du SNUIPP qui est affilié à la FSU. C'est donc le syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et PEGC. Vous êtes le syndicat majoritaire dans le primaire en France. Xavier Ponce, vous êtes maître de conférence à l'université de Paris-Est Créteil. Vous êtes chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Évaluer l'action éducative des professionnels en concurrence au PUF », c'est notre sujet de ce soir, et puis « Un que sais-je sur l'évaluation des politiques éducatives ».
Alors on commence avec un des grands maîtres de la question scolaire en France. J'ai nommé Jean-Michel Blanquer, le directeur de la DGESCO, directeur aux affaires scolaires au ministère de l'Éducation. Alors, pourquoi déjà évaluer les élèves en janvier ? C'est un point sur lequel les syndicats se mobilisent en disant qu'on ne peut pas évaluer en cours d'année. Et puis comment vous expliquez cette tension autour de cette question aujourd'hui ?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut rappeler quelques éléments de bon sens. Le fait d'évaluer ne peut être contesté par strictement personne. D'abord, les professeurs évaluent les élèves tous les jours. L'évaluation est consubstantielle à l'éducation. Et je pense qu'il n'y a pas à donner des connotations diaboliques au fait d'évaluer. Il n'y a rien de plus naturel que d'évaluer. La question, c'est d'évaluer comment, dans quel but,
à quel moment aussi. Excusez-moi, on évalue l'école ou les élèves en ce mois de janvier, aujourd'hui ?
Ce qu'on évalue, c'est les élèves d'une part et la France d'autre part, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, on évalue chaque professeur des écoles est en situation d'évaluer ses élèves. En général, à ce stade de l'année, il les connaît bien, mais ces tests sont extrêmement précis et bien faits et permettent donc d'avoir un diagnostic assez objectivé de la situation de chaque élève et donc d'avoir à la fois pour le professeur un tableau de la classe et un tableau de chaque élève. Et au passage, d'ailleurs, chaque parent d'élève peut ainsi avoir un tableau de son propre enfant, de la situation de son propre enfant à ce stade de l'année et à ce stade de sa scolarité, ce qui est évidemment très important. Donc ça, c'est un premier but. Puis il y a un deuxième but qui est d'avoir un portrait de la situation générale, non pas par école, mais par département, par académie et aussi à l'échelle de la France. Et c'est évidemment extrêmement utile aujourd'hui d'avoir une idée précise des domaines dans lesquels nos élèves sont bons, des domaines dans lesquels ils sont plus faibles et ce qu'il y a à avoir comme stratégie pour le futur, de façon à évidemment permettre que le niveau des élèves augmente.
Sébastien Cyr, bon, sur cette question du mois de janvier, puisque c'est en particulier votre syndicat hein, qui a soulevé ce problème, pourquoi vous pensez que c'est problématique d'évaluer au mois de janvier? Et puis davantage sur le fond, évaluer le système scolaire en évaluant tous les élèves, les 730 000 élèves de CM2, là aussi vous avez une opinion?
C'est problématique d'évaluer les élèves au mois de janvier parce que ça pose tout simplement le problème de la finalité de cette évaluation. Oui. Si on est sur une évaluation bilan, évaluer les élèves au mois de janvier, c'est beaucoup trop tôt puisqu'on sait qu'ils seront interrogés sur des points du programme qui n'auront pas été consolidés ou qui n'auront même pas été totalement vus. Si on est sur une évaluation diagnostique dont le but serait de repérer la nature des difficultés qu'ont les élèves, on est sur une évaluation en janvier qui arrive beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas fournir une feuille de route efficace pour les pratiques enseignantes, puisqu'il ne restera que 5 mois dans la scolarité avant d'arriver jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire que je rejoins M. Blanquer sur l'idée en fait que l'évaluation, c'est un geste, fait partie de la culture en fait scolaire, ça fait partie des gestes enseignants, mais les enseignants, ce dont ils ont besoin, ce sont de véritables outils professionnels pour les aider à repérer les difficultés que connaissent les élèves dans la classe et pour les aider ensuite à mettre en place des systèmes de remédiation. C'est pour ça en fait que l'évaluation, quitte à la faire passer à 730 000 élèves de CM2 et à 700 000 élèves de CE1, elle doit être véritablement utile aux élèves et elle doit guider ensuite les enseignants dans leur pratique de classe, d'où notre demande à ce qu'elle soit placée en début d'année. Si on veut évaluer les élèves, et si on veut évaluer le système éducatif, on pourrait très bien le faire pas sur échantillonnage. C'est ce que fait les services statistiques du ministère, l'ADEP.
Ou
l'OCDE avec l'enquête PISA, exactement. Hein, et on pense qu'on gagnerait à la fois de l'argent et à la fois du temps sur la question d'une évaluation du système éducatif qui doit se faire. C'est important à certains moments de porter un regard lucide sur les réussites et les difficultés de notre système éducatif, mais autant prendre à ce moment-là un travail sur échantillonnage comme on le fait pour PISA.
Regard lucide sur le système éducatif, il y a quand même des gens qui sont même contre cette évaluation. Et puis, il y a évaluation et évaluation. C'est ce que vous expliquez, Xavier Ponce, dans votre ouvrage « Évaluer l'action éducative », publié au PUF. Dites-nous, vous, ce que vous comprenez du malaise actuel sur cette question.
Je pense que le malaise est lié à des raisons des fonds et des raisons conjoncturelles. Si je par des raisons conjoncturelles, ça renvoie à la façon dont l'outil a pu être mis en œuvre au départ, donc ces évaluations CE1, CM2,
en 2009.
La première mouture. C'est un outil qui a été mis en œuvre dans l'urgence par des personnes très proches à l'époque du cabinet du ministre.
Et dans quel but ?
Le but était multiple. Le but était d'abord d'adosser ces évaluations à une réforme de l'enseignement primaire avec une modification des programmes. Il y avait aussi un autre but qui était de pouvoir doter le système éducatif d'un outil de pilotage, puisque ce qui a été dit, notamment au moment où ont été mises en œuvre ces évaluations, c'était que le calcul de la médiane des résultats des élèves devait permettre de fournir un indicateur de pilotage à tous les niveaux, pour l'enseignant dans sa classe, pour l'école éventuellement, ou l'IEN dans sa circonscription.
L'IEN
L'inspecteur de l'éducation nationale en responsabilité dans une circonscription du premier degré, donc qui a charge d'un territoire spécifique. Donc il y avait une volonté aussi de prendre en compte cela. Il y avait une volonté de prendre en compte les résultats des enquêtes internationales. C'était très patent dans le discours de Xavier Darcos à l'époque. On a justifié la mise en place de ces évaluations CM1, CM2, aussi bien en disant qu'il faut prendre en compte les résultats de PISA. Donc là, c'est un signe, une annonce faite dans le camp des partisans de cette enquête, qu'il fallait mettre en œuvre ces évaluations CE1, CM2 pour ne pas dépendre que de PISA. Et là, c'est un signe annoncé auprès des personnes qui sont contre cette enquête-là. Mais l'effet de conjoncture, moi, que je voulais mentionner, c'était quand même, on a autour de ces évaluations-là des volontés d'assouplissement de la carte scolaire. Mmh. On est dans un contexte de réduction des déficits budgétaires, de mise en place de la LOLF, etc. Et sans vouloir me prêter moi-même à l'amalgame, toujours est-il que le pas peut être vite franchi dans l'évaluation des écoles par ces évaluations des élèves, même si le ministère a jusqu'à présent apporté des garanties sur ce point-là. Et donc tout ça alimente un peu les réflexes défensifs du corps enseignant.
Le pas franchi, pour préciser, quel pas serait franchi ?
Un pas serait franchi si demain on décidait de publier par école les résultats obtenus par les élèves à ces évaluations-là. Mais encore une fois, ce n'est pas d'actualité. Le ministère s'est engagé plusieurs fois pour ne pas le faire, aussi bien M. Blanquer que son prédécesseur. Mais toujours est-il que ça alimente les réflexions, avec un grand renfort de modèles étrangers, type Angleterre, etc.
Bah, Sébastien Cyr, vous n'êtes pas à disposition de certains syndicats qui, eux, appellent à boycotter le renvoi de ces résultats. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur un fait. Le gouvernement a renoncé, c'est ce qu'on vient de dire, l'an dernier, à publier les résultats établissement par établissement parce qu'il craignait que les parents boycottent les écoles mal notées. Alors, on a trouvé ce système de publier les résultats département par département. Mais vous reconnaîtrez que rares sont les parents d'élèves qui habitent à cheval sur deux départements et qui donc vont pouvoir ainsi, sur la base de ces résultats, décider dans quel département il est préférable de scolariser leur enfant ou leurs enfants. On sait bien aujourd'hui que la presse publie maintenant chaque année des résultats concernant les performances respectives des hôpitaux à travers la France. Elle le fait également maintenant au niveau des lycées. On ne parviendra pas éternellement à empêcher les parents d'élèves de s'informer sur les performances respectives des écoles dans lesquelles ils envoient leurs enfants. De plus en plus, les clients du service public ont des attitudes consuméristes à l'égard de l'école. Ils veulent envoyer leurs enfants dans la meilleure école possible. La carte scolaire ayant fait l'objet d'une sorte d'un assouplissement, pourquoi voulez-vous empêcher les parents d'élèves d'accéder à cette information capitale pour eux ? Quelle est la performance globale et moyenne de l'établissement dans lequel ils envoient leurs enfants ?
Nous sommes contre la publication des résultats école par école parce que, comme le disait Xavier Ponce, on peut arriver à une dérive qui est la mise en concurrence des écoles les unes envers les autres et la publication d'un palmarès. Ce qui n'aurait pas véritablement de sens quand l'objectif en fait, du service public d'éducation, c'est d'assurer la même offre éducative et de réussite sur tout le territoire à tous les élèves. Ceci étant, les parents sont des partenaires en fait, de l'école et les enseignants, au jour le jour, entretiennent des relations de confiance, des relations d'informations sur justement les progrès que réalisent leurs élèves. C'est un élément professionnel, constitutif même de la professionnalité enseignante, en fait, ce lien avec les parents. Sauf qu'avec les évaluations qui nous sont proposées ici, nous n'avons qu'un regard partiel sur ce qu'est la mission de l'école, hein, le français et les mathématiques. Comme si la mission de l'école, en fait, n'était en fait que ciblée autour de ces éléments-là. Mais si on veut véritablement avoir un regard sur quelles sont les missions de l'école et comment elles aident les élèves en fait, à devenir des citoyens, on devrait aussi regarder quelle est la capacité de l'école à faire grandir et à faire s'épanouir les enfants, à découvrir le monde, à développer leur capacité motrice, en fait, à connaître leur corps. Tous ces éléments-là sont des éléments très importants qui doivent être également portés à la connaissance des parents et que les enseignants, au jour le jour, quotidiennement, régulièrement, font parce que ça fait partie véritablement de leur métier.
Et des éléments sur l'école française, sur lesquels l'école française peut encore faire beaucoup de progrès, ça c'est aussi les enquêtes internationales type PISA qu'ils montrent. Alors Jean-Michel Blanquer, tout de même s'il n'y a pas de mise en relation des établissements, hein, on ne publie pas de palmarès des écoles primaires, n'y a-t-il pas quand même une culture chiffrée de plus en plus présente aujourd'hui dans l'éducation ?
Je ne pense pas que le mot culture chiffrée soit un épouvantail en soi, si vous voulez. Je pense que tout le monde est contre une situation où on passerait son temps à remplir des tableaux et à ne voir l'autre que comme un numéro. Et vouloir soupçonner qui que ce soit au ministère de l'Éducation nationale de vouloir introduire une logique chiffrée sur chaque sujet est un petit peu caricatural.
Au nom de cela, si on essayait d'obtenir 100% d'élèves qui sachent lire et écrire en sortant du primaire, je pense que personne serait contre cette politique
exactement,
du chiffre-là.
Exactement. C'est ce que vous me l'enlevez de la bouche parce que c'était le deuxième temps de ce que j'allais dire. C'est que au nom de cela, au nom de ce bon sens que nous partageons tous, il ne faut pas non plus avoir une sorte d'aversion du chiffre. Autrement dit, il est tout à fait normal, notamment, d'essayer de savoir sur un territoire donné, à toutes les échelles, quelle est la situation concrète dans laquelle on est, si on veut avoir des stratégies. Ça s'appelle le pilotage. Alors, ça a des multiples conséquences. Je vais vous en donner simplement une. Chaque année, en tant que directeur de l'enseignement scolaire, j'ai à tenir, avec d'autres, bien sûr, un dialogue de gestion avec chaque académie de France. Eh bien, grâce à cela, à cette évaluation de CE1 et CM2, j'ai la possibilité de dialoguer avec chaque recteur de France sur la situation exacte des politiques menées concrètement sur le terrain pour arriver à avoir un bon niveau de français et un bon niveau de mathématiques des élèves de CE1, de CM2. C'est une évolution, évidemment, qui ne se voit pas, mais qui a des implications d'arrière-plan très importantes parce que c'est une forme, ça permet une mobilisation générale sur les facteurs qui font réussir les élèves. Relié au programme de 2008, hein, tout à l'heure, Xavier Ponce l'a donné comme un argument contre, d'une certaine façon. Moi, je le retourne comme un argument pour. C'est-à-dire que, bien entendu, nous assumons parfaitement que c'est au service d'une réalisation des programmes de 2008, qui eux-mêmes sont au service, en effet, d'une maîtrise des fondamentaux par les élèves. Non pas, et là, je complètement d'accord avec Sébastien Cyr, c'est non pas pour éliminer d'autres compétences que les élèves doivent avoir, par exemple les compétences corporelles, les compétences civiques qui sont si importantes, non pas au détriment de ces compétences, mais comme socle de ces compétences. Autrement dit, savoir lire, écrire, compter, c'est absolument fondamental, c'est la base de tout le reste, et il est vital que nous nous occupions de cela dès le début de l'école primaire, et les évaluations font partie de cette stratégie générale. C'est évidemment pas le seul élément. Hein. Nous ne considérons pas que les évaluations sont une baguette magique, mais c'est un outil indispensable à toutes les échelles pour faire progresser le système. Et je crois d'ailleurs que les acteurs les plus responsables, et c'est le cas d'ailleurs de certains syndicats, y compris le SNUPP, sont tout à fait conscients du principe. Après, on peut discuter des modalités, bien sûr, mais sur le principe, c'est une évidence pour quiconque est responsable.
Vous n'avez pas répondu sur la date. Sébastien Cyr vous a fait la remarque, et elle a été beaucoup faite dans la presse, que le choix de la date n'est vraiment pas en janvier. La totalité du programme, par définition, n'a pas pu être couvert. Pourquoi ne pas faire ces évaluations, comme il vous suggérait, soit en début d'année, s'il s'agit effectivement de ce qu'Emile disait, d'une évaluation diagnostique, soit en fin d'année, une évaluation bilan. Je ne comprends pas la date de janvier.
Pour revenir à ma première question.
Ouais. Hein. À laquelle vous n'aviez pas répondu.
Parce que vous ne me l'avez pas vraiment posée, en fait. Mais j'ai aucun problème. Je réponds avec grand plaisir. D'abord, c'est un sujet extrêmement important parce qu'il permet de positionner les choses au bon endroit et ça structure l'ensemble, je dirais, du système éducatif, en tout cas de l'école primaire et même du collège. Donc nous le regardons avec beaucoup, beaucoup d'attention. Chaque hypothèse, évidemment, a des avantages et des inconvénients. Il y a une hypothèse, donc début d'année scolaire, donc vers octobre, septembre-octobre. Une hypothèse à mi-chemin, c'est celle de janvier, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Ouais. Et puis il y a l'hypothèse de fin d'année scolaire.
Comme dans CE1.
En CE1, c'est en fin d'année scolaire. Et je dis bien volontiers que chacune des trois hypothèses est très sérieuse et qu'il y a matière à argumenter sur chacun des trois. C'est pourquoi nous sommes en discussion avec tous les partenaires depuis le mois de mai dernier sur ces questions-là et que nous n'avons pas pris de décision de changement pour cette année parce que les conséquences en chaîne sont tellement nombreuses que nous voulons peser tous les avantages et tous les inconvénients. Il ne faut pas caricaturer la situation actuelle. Elle n'est pas aussi mauvaise qu'on l'a dit. Nous sommes prêts à la faire évoluer, soit vers octobre, soit vers juin. Mais nous ne le ferons qu'après avoir tout pesé et certainement pas dans une sorte de réaction de panique parce que la situation actuelle nous donne déjà de grands éléments de satisfaction. Nous pensons, et c'est là le point de divergence avec ce qu'a dit Sébastien Cyr, nous pensons qu'on peut avoir l'approche bilan et l'approche diagnostique à la fois. Même d'ailleurs, c'est vrai si on change la date parce que il nous reste quelques mois pour la remédiation. Autrement dit, il y a notamment les deux heures d'aide personnalisée, et ça c'est un des points très importants, mais aussi les stages de remise à niveau qui existent aux vacances de printemps et en juillet et août. Et puis aussi parce que, et ça nous allons beaucoup y travailler, les évaluations de CM2 doivent pouvoir être utilisées en début de sixième pour les élèves qui continuent à avoir des difficultés, parce qu'elles représentent un diagnostic assez précis, et donc elles représentent aussi un outil pour le lien CM2-6e, qui est un des enjeux importants du système scolaire aussi.
Si l'école n'a pas remédié à ces difficultés, comme on dit en langage scolaire, donc remis les élèves à niveau. Voilà, on parle des évaluations à l'école et du malaise qu'elles peuvent susciter aujourd'hui dans du grain à moudre. Il est 18h41 sur France Culture et donc on en parle avec Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'enseignement scolaire, qu'on vient d'entendre. Sébastien Cyr, secrétaire général du SNUIPP, le principal syndicat des enseignants du premier degré. Et Xavier Ponce, maître de conférence à l'université de Paris-Est, Créteil, chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement et auteur d'Évaluer l'action éducative des professionnels en concurrence. Et ça, c'est publié au PUF. Voilà, j'ai tout dit. Alors, je me tourne vers vous, Xavier Ponce, avec tout de même dans cette question d'éducation, à savoir qu'est-ce qu'on évalue. Là, on a bien compris qu'on évaluait le niveau des élèves pour évaluer l'école, les fondamentaux, le socle commun, même si on ne l'a pas dit. Bon, est-ce qu'on a évalué d'autres mesures? Par exemple, on a parlé de la carte scolaire. La carte scolaire qui a été assouplie. Est-ce qu'on a évalué l'assouplissement de la carte scolaire? Est-ce qu'on évalue les rythmes scolaires? Est-ce que le travail d'évaluation qui est fait par des chercheurs ou à l'intérieur de l'éducation nationale par l'ADEP, donc la direction à l'évaluation des politiques de l'éducation, est-ce que ces travaux sont connus? Est-ce qu'ils sont bien connus aujourd'hui, Xavier Ponce?
Je vous remercie pour toutes ces questions, parce que je manifeste un intérêt pour ces problématiques.
Et vous avez une minute pour répondre. Non,
très bien. Juste avant, pardonnez-moi, mais j'aimerais quand même réagir à ce qui a été dit juste avant par Jean-Michel Blanquer. Parce
si
que...
vous me promettez de me répondre après.
Oui, je vais faire mon maximum pour répondre à tout ça. Mais si vous voulez, on voit bien, je trouve, dans votre intervention, M. Blanquer, toutes les finalités qu'on assigne aujourd'hui à cet outil. Et je pense, comme certains statisticiens que j'ai pu interroger dans mes recherches, qu'on attend trop de cet outil. Et si on attend trop de cet outil, c'est parce qu'on est incapable en amont de trancher des grandes finalités, des grands choix éducatifs. Par exemple, est-ce que l'efficacité doit être une valeur de notre système d'enseignement? Est-ce qu'on attend de ces tests nationaux qu'ils soient des outils pour l'enseignant, pour fonder une pédagogie différenciée, des actions de remédiation, etc., qui nous emmèneraient vers le début de l'année? Ou au contraire, dans une logique d'évaluation des compétences type PISA, que vous avez mentionné, qui entraînerait ces évaluations-là vers une logique plutôt de standard, donc qui serait plus utile à des pilotes, qui soient au niveau national, au niveau déconcentré, local, etc. Donc là, je trouve qu'on... Et si vous voulez, la date de janvier, pour moi, c'est la résultante d'un compromis mou entre ces différentes finalités-là, avec la volonté d'avoir des actions de remédiation, du tutorat, du soutien spécialisé derrière, etc. Et manifestement, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, est dans une position où il doit plutôt ouvrir le dialogue, alors que ses prédécesseurs avaient déjà fait certains choix et serré relativement l'outil. Quoi.
On a entendu que le dialogue entre Sébastien Cyr du SNUIPP et Jean-Michel Blanquer avait l'air de plutôt bien fonctionner, en tout cas autour de cette table.
Vous avez mentionné le socle commun, c'est quand même un débat de fond, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces évaluations en primaire n'évaluent pas les piliers du socle commun.
Il y en a 7 des piliers, et voilà. Là, on évalue le français et mathématiques.
Voilà, oui, mais notamment parce qu'en CM2, elles ont lieu en janvier, on ne peut pas attendre de ces évaluations qu'elles évaluent une partie d'acquisition du socle commun. La DEP, en parallèle, au niveau national, met en place des échantillons, enfin des enquêtes sur échantillons qui sont supposées être provisoires, mais qui finalement durent. Et donc, on a une ambiguïté par rapport à ça. Comment évaluer, d'un point de vue statistique, au niveau national, le socle commun? Xavier Darcos, à l'époque, avait dit que le socle commun est évalué par les enseignants dans les livrets de compétences. Il avait le choix donc de faire confiance. Il avait fait le choix de faire confiance aux professionnels les plus proches des élèves dans l'évaluation du socle commun. Ça ne pose pas de problème, sauf que le degré d'atteinte des compétences attendues dans le socle commun est un objectif intégré dans les programmes de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances. Et que donc on doit disposer d'indicateurs statistiques sur le pourcentage d'élèves qui maîtrisent le socle commun aux différentes étapes de la scolarité. On les a par des enquêtes sur échantillons provisoires qui durent. En parallèle, on met en place...
Des enquêtes dont les résultats sont diffusés?
Les enquêtes qui sont publiées par le ministère, bien sûr, dans ses notes d'information, etc. On a des évaluations C1, CM2, CM2 en janvier, donc elles ne permettent pas véritablement d'évaluer le socle commun. Donc on est dans un entre-deux, on n'a pas tranché cette question-là. Alors ensuite, comment évalue-t-on l'assouplissement de la carte scolaire? Oui, il y a des évaluations qui sont portées, qui sont effectuées sur ce sujet-là par des chercheurs, par des inspections générales, par des enquêtes statistiques. C'est d'ailleurs pas un sujet nouveau. Vous savez que tout au long de l'histoire du développement de la carte scolaire, il y a eu des moments où on la raffermissait et des moments où on l'assouplissait. Et à chaque fois qu'on a mené des évaluations sur l'effet de l'assouplissement de la carte scolaire, elles ont montré que ça augmentait la ségrégation scolaire, donc la concentration, on va dire, inégalitaire de population sur certains territoires ou dans certains établissements.
Mais que fait l'école en ce moment, Jean-Michel Blanquer? J'entendais dans la question de Brice un certain désir des parents, qui fréquentent les écoles, d'en savoir plus sur le niveau. Il y a une angoisse scolaire très forte. Est-ce que vous avez l'impression d'accompagner le mouvement à l'éducation nationale en diffusant tout de même des informations, en assouplissant la carte scolaire, en permettant aux élèves de devenir un peu des consommateurs de l'école?
Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas du tout dans une logique de l'école consommée. Je pense que de ce point de vue-là, beaucoup de caricatures sont faites. Et au passage, je voudrais dire que vous êtes dans votre rôle en soulignant toutes les critiques, toutes les difficultés. Mais en réalité, les évaluations rentrent dans leur troisième année. L'année dernière, on a eu 98% de remontées. Et donc, c'est au contraire un grand succès. Et c'est aujourd'hui dans le paysage, tout simplement. Parce que pour tous les éléments qui viennent d'être exposés, par chacun de nous trois d'ailleurs, puisque en réalité, il peut y avoir des points précis sur lesquels on peut être en désaccord, mais sur le fond de la nécessité d'une évaluation, il y a un consensus de bon sens.
Je
ne
suis pas d'accord
sens.
Avec vous, excusez-moi, mais je vois que la CGT et Sud Éducation ont déposé des préavis de grève et que la Fédération des parents d'élèves,
la
FCPE, appelle les parents d'élèves à bloquer les évaluations en refusant la transmission des résultats. Donc on voit bien qu'il est loin d'y avoir un consensus.
Je dis, je me suis peut-être mal fait comprendre. D'abord, consensus sur le principe de l'évaluation, sur le fait qu'il y a besoin d'une évaluation. Là, la discussion portait sur janvier ou pas janvier. Permettez-moi de vous dire que je pense que, par rapport à ce que vous venez de citer, d'abord, ce n'est pas les syndicats majoritaires, loin s'en faut. Ensuite, il ne s'agit pas des évaluations telles qu'en elles-mêmes, mais de tel ou tel aspect de l'évaluation. Et j'ai peur que les évaluations prennent des balles perdues d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les évaluations. Et c'est évidemment un éternel problème pour l'éducation nationale. Donc on doit...
Si cristallise la contestation.
L'année dernière, c'était pareil. Il y a deux ans, c'était pareil. Chaque année, le monde médiatique reproduit les mêmes inquiétudes. Et à la fin, eh bien, nous réussissons nos évaluations,
fort heureusement. Année.
Donc permettez-moi de garder
que la FCPE
sérénité
en appelle...
et sang-froid sur le sujet. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une semaine.
Oui.
Nous verrons où nous en serons. Certains peuvent prendre des risques comme ça, qui, d'un point de vue républicain, me paraissent très inconsidérés.
Comment pouvez-vous parler de la divulgation des résultats qui sont déjà mis en ligne?
Bien sûr, le fait de divulguer des cahiers en ligne pour saboter en quelque sorte l'évaluation est en soi quelque chose de tout à fait anormal. Je préfère regarder ça avec... sérénité et sang-froid, mais sur le fond, chacun jugera sur le plan éthique de ce type d'attitude. Je pense qu'on essaye tous de faire avancer l'école. On peut avoir des points de vue différents, mais après, le choix des instruments qu'on utilise engage chacun. Donc, fort heureusement, ce n'est pas la position du parent ordinaire. Ce n'est pas la position du professeur de tous les jours. Certains peuvent avoir des interrogations sur le bon moment, sur la pertinence de l'outil que nous essayons d'améliorer d'année en année. Je ne dis pas que la situation actuelle est parfaite. Je dis simplement que nous sommes en chemin vers quelque chose d'intéressant, que nous écoutons beaucoup. Nous avons d'ailleurs écouté cette année le SNUPP et d'autres syndicats sur... pour affiner la manière dont les enfants répondent aux
questions.
Vous
avez renoncé au système binaire, c'est le conseil des syndicats.
Exactement, pour certaines questions, mais c'était un argument tout à fait intelligible et audible. Il était bon de passer d'un système binaire à un système, disons, quaternaire, plus subtil, disons, et il est certain
pour
que...
Pour mesurer les en cours d'acquisition, les connaissances en cours d'acquisition. Non, il faut expliquer, parce que...
C'était pas acquis, précis, non acquis, mais...
Donc avant, c'était noir ou blanc.
Pour une partie d'entre eux.
Mais 0 ou 1.
Ce qui est important de dire, c'est qu'on va progressivement améliorer l'outil, si vous voulez. Et il est déjà, d'ailleurs, si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il est d'ailleurs très significatif du fait que nous n'en rabattons pas sur l'exigence vis-à-vis de l'élève. Autrement dit, il y a vraiment quelque chose d'assez précis dans les attentes vis-à-vis des élèves. Eh bien, cet outil, il évolue. Il évolue parce que nous sommes à l'écoute. Mais nous sommes à l'écoute en toute sérénité sur un sujet qui mérite d'être sérieux et surtout d'aller au fond des choses.
On va y venir, Sébastien Cyr. Déjà sur la position du syndicat majoritaire des parents d'élèves. Alors vous, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, vous en pensez quoi de cet appel donc, et ces réserves contre
à bloquer
cette évaluation,
les
voilà.
Moi, je ne partage pas totalement l'avis développé par Jean-Michel Blanquer, parce que passation ne veut pas dire appropriation par les professionnels en fait, de ce dispositif-là. Et on le voit bien à travers en fait, les mots d'ordre qui sont aujourd'hui lancés, qu'il existe un malaise autour de ce dispositif-là. Hein, un malaise professionnel. Puisque la question centrale, Xavier Ponce le dit très clairement, et je pense que c'est ça qui doit être au cœur de nos discussions avec le ministère, c'est la finalité en fait, qu'on donne à l'outil. Hein. Puisque la finalité, avec un codage binaire, on voyait bien que la finalité, c'était bien d'avoir une évaluation qui sert à des fins statistiques, à évaluer le système éducatif. Mais quand nous demandons d'avoir un codage plus fin, un codage en fait, qui va permettre aux enseignants de mieux comprendre les réussites et les difficultés des enseignants, quand on demande en fait à ce que des élèves, quand on demande à ce que les enseignants soient guidés en fait hein, dans leur pratique professionnelle pour essayer d'aider ensuite ces élèves à progresser, nous demandons tout simplement à ce que cette évaluation soit un véritable outil professionnel au service de la réussite des élèves. Et la finalité, elle est claire pour nous. Elle n'est pas celle d'avoir des outils de pilotage pour le système éducatif. Elle est pour piloter la classe, pour aider l'enseignant à piloter et à faire classe.
Xavier Ponce.
Oui, je voulais dire quelques mots sur ce débat sur l'évaluation depuis qu'il existe, puisque j'ai eu l'occasion de l'étudier un tout petit peu, notamment depuis le début des années 70. Si vous voulez, quand on regarde les positions des uns et des autres, elles ont deux caractéristiques majeures depuis le début. D'une part, comme le disait Jean-Michel Blanquer, très peu d'acteurs sont ouvertement contre le principe d'évaluer, mais tous plaident pour une nécessaire meilleure évaluation. Et la deuxième caractéristique, c'est que les camps ne sont pas les camps habituels. On n'a pas forcément le ministère face au syndicat. Tous les enseignants ne sont pas contre l'évaluation, forcément. Tous les inspecteurs généraux ne sont pas pour l'évaluation, etc. Face à ça, que peuvent faire des décideurs? Longtemps, ils ont décidé de ménager le flou sur le mot. On le voit dans les textes officiels. En clair, on emploie tout le temps le mot évaluation sans dire vraiment ce qu'on attend de ce mot-là. Est-ce que c'est une mesure? Est-ce que c'est un jugement de valeur sur une politique, etc. Et que font les personnes comme Jean-Michel Blanquer et d'autres qui sont chargés de mettre en œuvre des politiques? Eh bien, on se focalise sur les instruments. L'instrument doit faire œuvre de politique. C'est-à-dire, il doit remplacer la politique. Mais on n'est pas là en train de dire qu'il y a une vraie politique d'évaluation derrière. On essaye de se mettre d'accord sur un instrument. Seulement, dès qu'on essaye de réfléchir à l'instrument, on voit bien que ça ne marche pas si on ne réfléchit que à l'instrument. Parce que la question des finalités se pose, parce que la question de la méthode se pose, parce que la question du contexte dans lequel on met en œuvre ces évaluations se pose. Et surtout, parce que la cohérence entre les différents outils qu'on met en œuvre ici et là se pose. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est quand même d'essayer d'avoir une évaluation en fin de cycle qui soit relativement institutionnalisée.
Alors la finalité,
oui,
Michel Blanquer.
Vous avez pensé, nous fera sûrement le crédit d'y avoir un peu réfléchi. C'est-à-dire, on est certes très orienté vers les instruments et les outils, mais il nous arrive de réfléchir aux finalités de ce que nous faisons. Et là, mon point de divergence avec mes deux voisins, c'est simplement qu'il est tout à fait possible d'avoir deux usages avec un même outil. C'est tout à fait possible. Je ne vois pas pourquoi le fait de donner un instrument au professeur lui permettant de regarder dans le détail pourquoi la maîtrise de l'écrit est bien maîtrisée ou moins bien maîtrisée par un élève, en quoi l'agrégation de ces données à l'échelle départementale, régionale et nationale ne serait pas intéressante aussi et ne permettrait pas aussi de tirer des enseignements intéressants. Alors, bien entendu, et là où on sera d'accord, c'est que cette évaluation-là ne représente pas la totalité de ce qui est faisable et intéressant. Il est important d'avoir des grands rendez-vous nationaux, y compris du point de vue psychologique, je dirais, hein, c'est-à-dire d'avoir des moments où tout le pays bien se concentre sur l'évaluation du niveau de ses élèves. Ça nous paraît important et ça fait partie aussi des utilités de cela. Mais par ailleurs, bien sûr qu'il y a des évaluations par échantillon, bien sûr que nous devons affiner le trait, bien sûr que nous devons regarder d'autres compétences que français et mathématiques, même si c'est les deux piliers auxquels nous nous intéressons le plus. Et donc, évidemment, nous devons avoir une stratégie globale qui, d'ailleurs, inclut aussi le collège.
Alors, ces enquêtes, elles sont utilisées par vous, votre direction, la DGESCO, on l'a dit, mais elles sont également utilisées par une autre direction qui s'appelle la DEPP. Et elle, cette direction, elle vise à comparer, c'est assez intéressant, dans le temps, le niveau d'acquisition des compétences. Et vous savez que c'est une des préoccupations majeures des parents de savoir si, oui ou non, le système scolaire français, qui baisse dans les classements internationaux, on l'a déjà dit ici, en tout cas, tel que le PISA les analyse, analyse si le système éducatif français s'améliore ou non d'année en année, parce qu'il y a la rumeur évidemment d'une baisse générale du niveau. Et ça, c'est vraiment une question importante pour les parents d'élèves, ça, Sébastien Cyr. Est-ce que parmi les syndicats, bon, on l'a dit minoritaire, mais enfin, il y a quand même un mouvement de boycotteurs, de désobéisseurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de casser l'outil parce que les résultats ne seraient pas conformes à ce qu'on pourrait espérer, Sébastien Cyr?
Le problème que vous soulevez, celui des inégalités de réussite scolaire, qui sont liées justement aux inégalités sociales, c'est le problème central de notre système éducatif. C'est ce qui fait que les enseignants sont engagés au quotidien pour essayer de faire réussir tous les élèves, et notamment ceux issus des milieux les plus fragiles. C'est justement ce défi-là qui doit, de la part de l'institution, c'est ce qui fait que les enseignants doivent avoir, de la part de l'institution, un véritable soutien, à la fois dans des outils qui va leur permettre justement de repérer les points faibles et les points forts des élèves, les difficultés pour pouvoir mieux cerner leurs besoins. C'est ce qui doit également permettre à l'école d'avoir un véritable soutien en termes de formation professionnelle, parce que la formation, c'est le levier essentiel, indispensable pour avoir des professionnels qui soient sereins, qui soient bien armés pour s'attaquer aux difficultés scolaires. Et ce que vous dites, en fait, hein, c'est la manière dont aujourd'hui on doit réfléchir pour transformer notre école, transformer notre système éducatif pour qu'il puisse répondre à ce défi qui est celui des inégalités scolaires.
Et donc, pourquoi certains veulent-ils casser le thermomètre ?
Ben, je pense qu'on devrait, devrait s'attaquer surtout à la fièvre. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est qu'aujourd'hui, notre système éducatif, il a de la fièvre. Et si on doit avoir des outils, c'est des outils pour comprendre la fièvre et pour savoir comment on doit la traiter. Et ce sont les enseignants qui sont en première ligne pour pouvoir y répondre. Et ils doivent être pour cela formés, soutenus et accompagnés.
Jean-Michel Blanquer, la fièvre, c'est l'accroissement des inégalités dans le système scolaire français qu'on note d'année en année.
Enfin, qu'on note dans l'enquête PISA qui concerne des élèves de 15 ans et donc...
D'autres enquêtes lesquelles... de chercheurs en sciences de l'éducation.
Oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire que la question des inégalités ne se traite pas en un jour. Hein. Il y a une série de stratégies actuellement pour prendre très au sérieux ce sujet-là. Sujet que nous avons en partage avec la plupart des pays d'ailleurs du monde, hein, et notamment du monde industrialisé.
C'est plus grave en France.
On a quand même un 25% des élèves qui décrochent. C'est loin d'être le cas en Finlande ou en Corée, d'après...
Ce que je disais... là, nous vous m'emmenez vers un débat très long. Ce n'était pas pour nier le problème. Je disais ça simplement pour dire que c'est un très, très sérieux problème. Nous ne sommes ni les meilleurs ni les pires sur ces questions-là. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le fait qu'il y a des stratégies aujourd'hui pour lutter contre les inégalités, notamment le renouvellement de l'éducation prioritaire qui est absolument indispensable pour arriver à être plus efficace dans la lutte contre les inégalités. Cette lutte contre les inégalités, elle passe avant tout par la transmission des savoirs. Je crois qu'on a des politiques d'éducation prioritaire qui passent par un accompagnement éducatif renforcé, par la personnalisation des parcours. Elles passent aussi par la qualité, c'est-à-dire par le fait que nous soyons très attachés justement aux évaluations et à une transmission des savoirs bien faite. Dans les dernières évaluations que nous avons pu faire des réseaux Ambition Réussite, donc au cœur de l'éducation prioritaire, là où il y a les plus grandes inégalités, nous avons à la fois des forces, c'est-à-dire que nous avons réussi par exemple à ce que les élèves soient plus pris en charge, nous avons réussi à ce qu'ils progressent quant à leur présence en classe, quant à leur participation à certaines activités. Nous sommes par contre restés faibles sur la véritable valeur ajoutée pédagogique que nous leur apportons au cours de leur scolarité. En clair, ça signifie qu'en sortie de troisième, beaucoup d'élèves de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire des quartiers les plus défavorisés, sortent avec un niveau en français et en mathématiques qui n'est pas du tout satisfaisant. Donc on doit se concentrer sur ces sujets-là. C'est ce que nous faisons. Bien entendu, les fruits ne se voient pas du jour au lendemain. Et ce que je regrette sur ces questions, c'est que parfois on instrumentalise justement l'évaluation où on instrumentalise tel ou tel débat pour critiquer des choses qui en réalité sont en train d'essayer de remédier à ce que ces évaluations nous révèlent. Donc il faut aussi, il serait bon que dans le débat français, qui est normal, qui est logique, il y ait un petit peu de sérénité pour bien regarder les facteurs par exemple de l'inégalité et ce qui est fait en ce moment sur ces facteurs de l'inégalité.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, mais des débats sur l'éducation, hein, nous vous en proposerons d'autres d'ici la fin de l'année, de l'année scolaire par exemple. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Merci Sébastien Cyr, secrétaire général du SNU-IPP, et merci Xavier Pons, je rappelle le titre de votre livre, « Évaluer l'action éducative des professionnels en concurrence », c'est publié au PUF. Et demain, dans du grain à moudre, Brice.
Demain, on parlera des animaux. Les animaux font-ils les frais de l'humanisme? Nous serons discussions avec un juriste, un biologiste, un historien et un théologien. Le juriste Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, le biologiste Yves Christin, l'historien Damien Baldin et le théologien Jean-Baptiste Lecuy. Ça sera donc demain sur France Culture dans les grains à moudre. Mais écoutez donc les matins de France Culture de demain. Ça sera avec Enzo Traverso, un magnifique historien qui vous parlera des extrêmes droites en Europe. Et puis ne ratez pas non plus les idées claires de Julie Claraigny à 7h35. C'était Du grain à moudre, une émission proposée par Louise Touret et Brice Couturier, équipe de production Nathalie Lempereur, Avril Ventura, Francesca Fossati. Mais tout de suite, Laurent Goumard, vos invités ce soir.